Chapitre 53. Le lendemain matin, on lui apporte du porridge tiède, une petite banane et une sorte de jus de fruits indéfini. Goût tropical peut-être. Owen se dit que ses repas lui manqueront quand il sera de retour à la maison. Il aime la nourriture de la prison. C'est presque meilleur que ce qu'il se cuisine, et tout lui paraît plus simple. Il apprécie la façon dont le repas est présenté sur le plateau, et surtout, de ne pas avoir à s'en soucier. Il se dit qu'il pourrait prendre goût à la prison, finalement. Il est peut-être plus heureux ici qu'en liberté, dans ce monde où il devra se préoccuper de se faire à manger, où il devra affronter le regard des femmes qui croiront avoir affaire à un violeur, où il faudra s'inquiéter de trouver un travail, une copine. Et si c'était son destin? Si on découvre le corps de Saphir Maddox coupé en morceaux sous son lit, il se souviendra peut-être que oui, finalement il l'a tué. Affaire classée, prison à perpétuité. Et des plateaux repas jusqu'à sa mort. Peut-être qu'il deviendra un homme fascinant aux yeux de toutes sortes de femmes bizarres qui voudront épouser le monstre qui a massacré une jeune fille de sang-froid. Tout compte fait, peut-être qu'être désigné coupable lui conviendrait mieux. Il tend le plateau vide au policier de l'autre côté de la porte. L'agent Zizi. Il est d'origine bulgare. Il n'a absolument aucun humour, ce qui ne doit pas être facile avec un nom pareil. Il est 8 heures. Le soleil brille. Est-il possible de devenir complètement assisté en moins d'une semaine? Owen ne sait plus du tout à quoi ressemblait sa vie d'avant. L'homme qui se coupait les cheveux tout seul dans la salle de bain de Tessie lui semble être un lointain souvenir. Celui qui allait au travail tous les jours pour enseigner à des adolescents les langages informatiques lui paraît aussi irréel qu'un rêve. Et le mec dont parlent les journaux, l'incel qui veut inséminer des femmes inconscientes, est une fiction. La seule version tangible de lui-même, c'est celle qui se trouve ici et maintenant, dans la solitude d'une cellule de Kentish Town. Il reste assis quelques instants de plus, observant les formes mouvantes peintes par le soleil sur les murs. Étrangement, il se sent plein d'espoir. Diana ne voit pas en lui un monstre. C'est suffisant. C'est tout ce dont il a besoin pour continuer à vivre. Ses pensées quittent la cellule lumineuse, dépassent la coupe de cheveux inachevée dans la salle de bain, les vitres embuées de sa salle de classe à Ealing College, la main de Tessie posée sur son épaule à l'enterrement de sa mère, puis la vision de sa mère écroulée sur la table de la cuisine, comme si elle était saoule alors qu'elle était morte. Ses souvenirs s'arrêtent face à l'adorable garçon qui ne voulait pas sourire à l'appareil photo dans le studio de l'agence de mannequins. Qui était-il, ce petit gars? Comment s'était-il retrouvé dans ce pétrin? Il essaie de se remémorer les moments de souffrance qui l'ont mené jusqu'ici. Il songe aux mois qui ont précédé la séparation de ses parents quand il avait 11 ans. Un divorce abîme les enfants, tout le monde le sait. Mais s'était-il passé un incident particulier à ce moment-là, qui avait pu engendrer cette version emprisonnée de lui, parmi tous les Owen potentiels? Il repense à la maison dans laquelle ils vivaient ensemble autrefois, à Winchmore Hill. Un bâtiment bas d'après-guerre, avec une façade en galets, des petites fenêtres, un porche envahi par les toiles d'araignée, une commode sombre avec un téléphone et un carnet pour noter les appels, un petit chandelier. Sa mère avait une passion pour les chandeliers. Il se souvient d'elle assise sur la première marche de l'escalier, le combiné à la main, discutant avec une amie, un mouchoir froissé sur le nez, disant « Je crois que c'est fini cette fois, Jenny. Vraiment. » Il se souvient de la fumée de cigarette qui montait jusqu'à l'endroit où il était posté, sur le palier. Dès qu'elle avait raccroché, il était descendu voir sa mère. « Qu'est-ce qui est fini, maman ?» Et sa mère de sourire en écrasant sa cigarette. « Rien, Owen, rien du tout. Retourne te coucher. Demain, il y a école. » Mais à partir de ce moment-là, il avait été en état d'alerte. Il s'était mis à scruter ses parents avec inquiétude, cherchant à découvrir un indice qui l'aiderait à comprendre la situation. Un souvenir enfoui lui revint brutalement en mémoire, une séquence qu'il avait longtemps hantée, mais à laquelle il ne pense plus depuis des années, depuis la mort de sa mère, parce que c'est insupportable. Il se souvient de son père rentrant tard du travail un soir, laissant dans son sillage l'odeur des pubs londoniens. Depuis le palier, Owen l'avait vu poser d'un geste sec les clés sur la commode, retirer sa veste, soupirer, puis s'étirer les épaules comme s'il se préparait à un exercice physique. « Ricky ?» avait appelé sa mère depuis le salon. Son père avait soupiré à nouveau, puis s'était approché de la porte. « Bonsoir, chérie. » Et puis il avait entendu de la musique quand son père avait ouvert la porte. Pas le bruit de la télé, mais une sorte de mélodie étrange, onirique. Un homme à l'accent américain qui interprétait une chanson douce à propos de jeux interdits. « Bonsoir, chérie. Viens, entre dans mon boudoir. » Owen avait descendu quelques marches sur la pointe des pieds et regardé à travers les barreaux de la rambarde. Il avait vu sa mère, debout dans une salle illuminée par des dizaines de bougies, portant une tenue étrange. Des sous-vêtements en dentelle, quelque chose autour du cou, des talons hauts, ses lèvres rouges vifs. Et quand le père d'Owen était entré, elle avait attrapé sa cravate et l'avait attirée vers elle en disant « Je veux que tu me baisses comme une pute. » La porte s'était refermée et il avait entendu des bruits étouffés, des grognements, des coups, des gémissements, qui s'étaient arrêtés brusquement. Sa mère était en larmes quand son père avait quitté la pièce, reboutonnant son pantalon, le visage écarlate. « T'as voulu que je te traite comme une pute. Maintenant, assume. »«
Ricky !» avait sangloté sa mère. « S'il te plaît, j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. »
Le mascara dégoulinant sur ses joues. Un sein sorti du soutien-gorge en dentelle. Tombant. Fripé.
« Ricky, s'il te plaît !»
Son père attrapant sa veste, ses clés, puis ouvrant la porte. La chanson sur les jeux interdits. La porte d'entrée qui claque. Deux semaines plus tard, le père d'Owen part pour de bon. Il faut séparer la maison en deux. Vendre l'autre appartement. Sa mère meurt. Son père le déteste. La nouvelle femme de son père le déteste. Sa tante le déteste. Les filles le détestent. Il est arrêté pour le meurtre d'une adolescente. Il se rend compte qu'il prend goût à la nourriture de la prison. Est-ce aussi simple? D'abord, la vision de sa mère se dégradant pour plaire à son père, puis le rejet. Était-ce à l'origine de tout ce qui clochait dans sa vie? Sa peur des femmes? Et si c'était l'explication, est-ce qu'il y avait une solution pour supprimer cet événement de son histoire? Pour recommencer à zéro? Comment? Comment guérir de ce traumatisme psychique? Owen comprend que le seul moyen de faire la paix avec lui-même est d'affronter ce souvenir. De parler à son père. Il va à la porte de sa cellule et cogne au battant. L'agent Zizi ouvre la trappe. Oui?
Il faut que je passe un coup de fil, s'il vous plaît. C'est très urgent.
L'agent le regarde d'un air antipathique. Je vais voir si c'est possible.
S'il vous plaît. Je n'ai encore appelé personne et c'est mon droit.
Il referme la trappe. Je vais me renseigner. Quelques instants plus tard, il revient. Prenez vos affaires.
Quelles affaires?
Vos vêtements, votre trousse de toilette. Apparemment, vous pouvez partir.
Quoi?
Je n'en sais pas plus. Je vous répète ce qu'on m'a dit, c'est tout. Vous pouvez récupérer vos effets personnels et rentrer chez vous. Allez.
Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont retrouvé?
Dépêchez-vous. Owen regroupe ses affaires et jette un dernier regard aux ombres dorées sur le mur, à la forme de son corps sur le matelas, à la couverture bien pliée, au carré de ciel bleu qu'il aperçoit par la fenêtre de la cellule. Il songe aux heures enfermées ici, dans cette pièce qui lui semble être le seul endroit qu'il connaisse en ce bas monde. Et pourtant, il est libre. S'il a une certitude, c'est qu'il ne retournera pas à son ancienne vie. Il n'habitera plus dans l'appartement de Tessie aux portes verrouillées. Il ne redeviendra pas le genre d'homme qu'on pense capable de viol et de meurtre. Il ne fréquentera plus les forums incel et ne prendra plus de verre avec de dangereux misogynes patentés. L'agent ouvre la porte et Owen le suit en silence dans les couloirs, à travers des pièces où on lui restitue ses affaires et on lui demande de signer des papiers. Puis, il est dehors. Sur le trottoir de Kentish Town. Le soleil brille fort. Le réchauffe. Les prémices du printemps. Les prémices d'une vie nouvelle. Il sort son portefeuille pour vérifier qu'il a bien sa carte bleue et de la monnaie, puis lève le bras pour héler un taxi.